Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Whip,
des
clip, crop,
des,
bang,
des,
blanc,
et des...
Zip, shabam, pow, blanc, whiz.
Alors, avant de commencer mon introduction, ça paraît compliqué, tout ça, mais... je tiens à remercier France Inter qui fait une rubrique sur les BD et qui a exactement repris la musique, notre thème musical.
Ah oui. Voilà. Donc Jean-Marc, tu l'utilises à filer pour le
Radio
dire.
B est écouté de partout.
Voilà.
Jusqu'à Paris.
Jusqu'à France Inter.
Voilà. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B, c'est une évidence. C'est Pitbull qui s'invite avec un nouvel opus consacré pour la seconde fois au manga. Encore ? Oui, encore. Parce que le monde du manga a plusieurs facettes. Arrivé en France dans les années 90, impossible de ne pas citer le maître... Alors ça, c'est dur à prononcer. Hein. Katsuhiro... Non, ça y est, je l'ai oublié. Katsuhiro Otomo, créateur d'Akira, publié chez Glénat, maison d'édition novatrice et gonflée à l'époque. C'était un petit peu... dangereux. Mais le manga n'est pas qu'une géniale forme graphique importée. Désormais, il y a une création française sur laquelle nous allons nous pencher. C'est à lire dans les deux sens. Vous comprendrez tout à l'heure, quand vous, si vous lisez les bouquins qu'on vous conseille, il y a des fois, il faut les lire à l'envers, des fois à l'endroit. Ça, Anne, elle aime bien, parce que c'est toujours mon mauvais jeu de mots.
Certes.
Et donc, bienvenue dans le French Manga. Donc on peut mélanger toutes les langues. Hein. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'Akira.
Oui.
Avec ce que chacun d'entre nous peut apporter. Et donc, on va écouter un peu de musique. Hein.
Parfait.
On y va.
Transition.
Reconnu,
éternel classique.
La Dame de Fer, Iron Maiden.
Oui, la Vierge de Fer.
La Vierge de Fer, mais c'est cruel, ça fait mal. Ça.
Ah oui, 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 oui. c'est ce que disaient les gens lorsque ils sortaient à l'intérieur.
Ils disaient rien du tout quand ils sortaient.
Certes non. Est-il de meilleure introduction, meilleur démarrage.
Voilà. Oui. Alors c'est marrant d'ailleurs, Maxime, ce choix d'Iron Maiden pour
très pertinent
Akira.
Sur le propos, et ça fait un lien intéressant tant à la fois avec Akira. Ouais. Que les œuvres, j'ai garé le prénom, que tout simplement le meilleur des mondes.
Ah.
C'est... Les mêmes thèmes sont employés, présumons ici des prémices du cyberpunk dystopique tel qu'on l'entend aujourd'hui.
Qui c'est qui va avoir le mot de la fin? Le meilleur des mondes, c'est de qui?
Ulay Alnouz.
Mais Aldous Huxley. Aldous Huxley. Aldous Huxley.
Oui.
Mille excuses. Hein.
Non, c'est pas grave. Voilà, donc Akira. C'est quand même, c'est un petit aparté par rapport à notre programme d'aujourd'hui qui est sur les mangas français. Mais c'est quand même un monument et c'est lui qui a ouvert la porte. Enfin, c'est lui, c'est surtout la maison Glénat. Je précise, entre guillemets, si Glénat nous écoute, que j'ai essayé de les joindre et c'est impossible. Voilà. Je te laisse, Maxime.
Pas de souci. Alors, Akira de Katsuhiro Otomo, donc, la pierre angulaire pour beaucoup, le premier manga proprement publié, proprement diffusé à l'étranger, notamment en France, et ce de 1982, pour son édition originale. Il y a eu un film d'animation du même nom, 1988, qui a, notamment à Paris, fait 50 000 entrées, ce qui est assez rare pour l'époque, mais qui a proprement introduit le manga comme une culture cinématographique ou comme une culture graphique à part entière.
Il était dans un seul cinéma, en fait, moment où il est sorti au Ciné Beaubourg, à côté, Beaubourg. Effectivement. Et je l'ai vu.
Ah.
Oui, tout à fait. Au milieu de Sosie, de Jim Morrison, puisqu'à l'époque étaient sortis les Doors de... comment s'appelle-t-il ce réalisateur américain qui a fait Né un 4 juillet? Décidément, c'est la journée des trous de mémoire.
Comme Alain
Oliver Stone.
Oui, c'est ça.
Ça.
Mm-hmm. Oui, voilà.
Et l'acteur, je ne me rappelle plus de l'acteur.
Val Kilmer,
voilà. Qui a joué Batman.
Oui, voilà. On s'éloigne, mais en même temps, pour toi, on ne s'éloigne pas. C'est
pas le meilleur.
Ton chéri, Batman. Ouais. Donc, oui, Akira, c'était très bien.
Akira, c'était le premier succès international, on va dire, à proprement parler du manga. Chacun des tomes s'étant vendu à plus de 700 000 exemplaires. Le film en lui-même, pour l'époque, pour l'animation japonaise, a fait 80 millions de dollars de chiffre d'affaires, par exemple.
Ah oui.
Et ça reste considérable. Donc Akira, qu'est-ce que c'est? Comme Ghost in the Shell, que nous avons évoqué lors de la précédente édition, ça reste une pierre angulaire du monument du cyberpunk dystopique. À proprement parler, c'est une œuvre qui est marquée profondément par le traumatisme japonais, notamment l'usage de la bombe atomique, la reconstitution de l'avant-guerre et les troubles, notamment étudiants ou civils, qui ont suivi la période d'occupation américaine, qui sont ici traités de manière assez personnelle par l'auteur.
Mais en parlant d'Akira, on peut aussi parler du trait, du
le
trait du dessinateur. Et effectivement, ouais, il y a des côtés qui sont quand même, alors bizarrement ou étrangement, il y a un côté assez européen. On sent que c'est un peu universel. Je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément tout de suite les codes graphique du manga traditionnel, avec des grands yeux, etc.
C'est ça.
Et on trouve des... mais je pense notamment aux vaisseaux spatiaux, enfin tout ce qui est architecture, etc. C'est assez proche de quelqu'un que j'aime bien citer, Moebius.
Oui.
Mm-hmm. Et c'est très fin. C'est très pointu comme graphisme.
La publication des albums, effectivement, est complètement européenne. Et donc, quand on pense aux mangas qui ont quelques pages colorées pour ensuite continuer sur des pages noires et blancs, là, on a un album qui est intégralement en couleur, qui a une unité graphique complète, que ce soit tout le traitement, en fait, la façon dont les aplats de couleurs sont gérés, toutes les hachures qui permettent de donner de la profondeur de champ, le travail de la perspective. Et puis l'harmonie des couleurs est constante, en fait. Et donc il me semble que tu avais parlé d'une influence années 70 Moebius,
un peu, ouais.
En fait, sur cet album. Oui, la publication chez Glénat est une publication, alors je ne sais pas ce qu'il en est, hein, je n'ai pas la culture de Maxime sur Akira, mais ce qu'il en est de la publication originelle, mais en tous les cas la publication française c'est à la fois complètement japonais. C'est exactement ce que nous disait Maxime, c'est-à-dire la culture du traumatisme des deux bombes atomiques, avec effectivement ce Néo-Tokyo de 2030 où une société traumatisée par une guerre qui a détruit la ville se pose la question de la façon dont elle va assumer ce passé de façon technologique et la façon dont elle va se protéger
C'est ça. Akira, c'est avant tout l'histoire d'une reconstruction sociétale et humaine.
C'est aussi une question de survie, parce que
précisément.
On a un petit groupe de personnages qui sont assez intéressants.
Enfin, oui. En fait, les personnages principaux sont des adolescents de 16 ans. Donc c'est ça qui est très touchant, parce que ce sont des marginaux qui ont été mis donc dans une institution qui est là pour en quelque sorte les réinsérer, mais vu la façon dont ça se passe dans cette institution ça n'est ni plus ni moins qu'une maison de correction, une forme de maison de correction ouverte, puisqu'ils peuvent quand même sortir, et elle ne représente rien pour eux, elle ne les structure pas, puisque à côté non seulement ils font des raids à moto entre gangs, mais en plus de ça effectivement ils font du trafic de drogue. Donc autrement dit, ça veut dire que tout le système de répression qui est censé rééduquer la jeunesse, en fait, ne fonctionne pas.
Oui, mais ça, en même temps, le côté positif de la chose, c'est que ça reconstitue des groupes.
Oui.
Et des groupes qui se rejoignent pour survivre.
Peu de lien égal celui d'un traumatisme communément ressenti.
Voilà. Donc c'est ça qui fonde, en fait, je dirais, le lien qu'il y a entre tous les personnages d'Akira, que ce soit effectivement, l'armée secrète qui fait des expériences à partir d'enfants qui ont des pouvoirs,
psychokinésiques.
On est presque dans les X-Men.
Très poussés. Oui, tout à fait.
Les X-Men qui détruisent des villes.
Exactement. Mmh. Et en fait, effectivement, la question, c'est qui est Akira ? Qu'est-ce que Akira ?
C'est la ville.
Oui.
Je ne me suis pas trompé. Hein.
Non. La ville, c'est Néo-Tokyo.
Oui.
Ce qui est intéressant à constater, c'est qu'Akira, donc un projet secret gouvernemental, d'un enfant qui a été doté par manipulation génétique, donc des pouvoirs psychokinésiques, d'aptitudes psychiques, téléportation ou tout simplement combustion spontanée, sur des centaines de milliers de kilomètres, ce qui est un problème.
Oui. Ça chauffe.
Et Akira, donc le personnage en lui-même, qui donc crée et détruit par deux fois toute la ville de Néo-Tokyo, représente donc bien évidemment la science non contrôlée.
Oui.
Sous-entendu ici, sous l'usage de la bombe atomique. Donc la ville est détruite deux fois, comme Hiroshima et Nagasaki. Et Akira en soi, qui pourrait se traduire par petit garçon, c'est également le nom de la première bombe qui est tombée sur Hiroshima.
Oui.
Little Boy.
Ce qui n'est pas une coïncidence ici. Oui. Moi, ce qui m'a marqué, c'est aussi 2030. Alors, j'ai pensé à Ghost in the Shell, qui se passe en 2029. Donc, je ne sais pas s'il y a entre les deux un clin d'œil, mais en tous les cas, c'était assez étonnant de voir que les dates, en fait, étaient très proches à ce point.
Plutôt un hasard, effectivement, mais dans l'idée de... Les deux font de la science-fiction à vocation, on va dire, sociologique, ou avec un contenu intéressant à partager, tout du moins un propos à transmettre. Et là... Ils ont un futur proche ou qui peut apparaître comme
plausible.
Disons plausible, oui, voilà. Oui. Pardon. C'est plus intéressant pour le propos que tout simplement faire une histoire des millénaires après.
Oui. Donc on
en
est
somme,
pas...
c'est réalisable, c'est concret. Le lectorat n'a pas de difficulté à l'assimiler comme ça.
Ce qui est aussi très intéressant, c'est, la superposition de strates, la relation entre le présent, le futur et le passé, l'avenir plus exactement. Et c'est ça qui, je trouve, rend Akira non seulement plausible, mais en plus qui crée un attachement au personnage, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde imaginaire complètement détaché de notre monde actuel. On y voit des strates historiques qui se superposent et des strates sociales, des sociétés qui cohabitent, qui ne se connaissent pas, mais qui, au cours d'un événement, en fait, vont se rencontrer.
Une histoire de la violence symbolique.
Oui. Et c'est ça qui, je trouve, très étonnant. Alors, tout est vu à travers les yeux d'un personnage qui est justement Kaneda, donc un jeune voyou qui est assez étonnant puisque, évidemment, il a un côté, comment pourrait-on dire, propre à un héros romanesque, si ce n'est un peu romantique, presque. Paradoxalement. Alors que c'est un chef de bande et il est très, comment pourrait-on dire, protecteur à l'égard de son ami Tetsuo. Et ce qui est assez étonnant, c'est que il a ce paradoxe du chef, c'est-à-dire qu'il est à la fois dominateur et protecteur. Et Tetsuo se retrouve à la suite d'une rixe avec une bande rivale, donc blessé à l'hôpital. Et en fait, il est repéré donc par l'armée secrète parce que à la suite d'une prise de drogue, il va développer lui aussi des pouvoirs psychokinétiques. Et donc s'étant échappé de l'hôpital, il va développer une modification de personnalité liée en fait au développement de ses pouvoirs et affronter justement Kaneda qui représente pour lui justement l'autorité qu'il a protégé mais dont il veut s'affranchir pour en quelque sorte grandir. Mais est-ce que Tetsuo va grandir lorsque on sait qu'il a autant de pouvoir et qu'avec ses pouvoirs il est capable d'un tel niveau de destruction? Donc en fait c'est la question de la maîtrise de ses pouvoirs et aussi du problème qu'il y a lorsqu'on découvre ses pouvoirs dans la douleur, puisque effectivement Tetsuo est obligé de prendre des drogues pour se calmer, mais en fait ces drogues ne font que développer ses capacités.
Précisément.
Oui.
Tout en le maintenant sous sédation de personnalité, disons.
Oui.
Ce qu'il vit assez mal en étant conscient, ce qui rend ultimement le traitement inefficace.
Donc, effectivement, il y a aussi il y a une multitude de suspense à différents niveaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en sera? Je veux dire, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle apocalypse, en fait, du fait de l'enchaînement des événements et qu'il y a une montée, en fait, en puissance des pouvoirs de ses enfants, le réveil d'Akira, effectivement. Qu'est-ce qui va se passer? Et il y a, effectivement, aussi un drame intime qui est lié à la relation de ces deux adolescents de 16 ans qui étaient amis, mais qui se retrouvent de plus en plus à s'affronter. Donc Akira, pour ça, est vraiment à plusieurs niveaux. C'est pour ça que je trouve que c'est un album, enfin un manga absolument exceptionnel.
Voilà.
À juste titre. Qui a été d'ailleurs promu en 2015, je crois, au Grand Prix du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême.
Là, 2015, on peut voir la vitesse à laquelle ça a été reconnu. Hein. Oui.
La première fois qu'un album de manga a été reconnu.
Mais il faut quand même ne pas oublier une chose, c'est qu'en France, il y a eu un phénomène de rejet de la culture manga. Lorsque Akira est arrivé, il faut dire que c'est arrivé par le Club Dorothée, c'est quand même lui qui a fait la promotion d'Akira, étant donné qu'il faisait connaître les dessins animés japonais. Et ça a été pour eux l'occasion de se donner une légitimité à travers ce qui était réputé comme un manga sulfureux, mais néanmoins un chef-d'œuvre. Je dirais qu'une partie de la critique française qui maintenant s'intéresse au manga a fait preuve à l'époque d'un rejet. Parce que c'était jugé trop violent, mais ça n'était pas vraiment étudié.
C'est-à-dire que la problématique à l'époque, c'était que le Club Dorothée, on a fait tout feu, tout flamme sur le Club Dorothée, parce qu'on projetait des dessins animés qu'on trouvait à l'époque très violents.
Oui, qui étaient pour adultes, pas pour enfants.
J'ai souvenir des levées de boucliers à l'époque, c'était spectaculaire.
Les Chevaliers du Zodiac, Ken le Survivant notamment, ces deux-là.
Le Goldorak.
Oui, et là, ça a traumatisé toute une génération, non pas par sa violence, mais pour la piètre qualité de son doublage.
Ah oui, Ken le Survivant.
Il garantit l'hilarité de la suivante.
Ah oui, d'accord, très bien. Bon, moi, enfin, c'était plutôt l'explosion des, des victimes de Ken. Mais
Barbie.
Oui. Alors, Jean-Marc, et toi, tes remarques sur la beauté du graphisme d'Akira? Donc Moebius, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui, une unité parfaite. En fait, une unité parfaite du style.
Il y a même, je vais parler de couleurs un petit peu.
Oui.
Tel Moebius, je me rappelle. Il utilise très bien Photoshop, par exemple, pour faire des fonds, des dégradés, des choses comme ça. Et c'est très fin.
Oui.
Alors que dans beaucoup de publications actuellement, on trouve une surutilisation de tous ces procédés graphiques. Mmh. Ouais. Et là, on perd pas le trait.
Oui.
Le trait est toujours fin, pur, etc. Et au contraire, ça l'enrichit.
C'est vrai qu'il y a des fonds, en fait. les fonds sur lesquels s'expriment les personnages. Enfin, moi, je suis absolument sidérée à quel point ça fonctionne, en fait.
Ça met les personnages en avant.
Oui, complètement en avant. Complètement. Et leur expression de visage, le sens du trait aussi est absolument sidérant. Et oui, moi, je trouve qu'il y a plusieurs techniques. Ouais. Hein. Il y a vraiment un hachuré utilisé, comme on le fait dans la gravure sur cuivre du XVIIe siècle. Il y a donc une part de ligne claire un peu dans la tradition franco-belge.
Et le cadre effectivement. Est très clair aussi.
Oui,
c'est
oui, tout à fait.
La bande dessinée occidentale sur la question.
En fait, ce que tu dis est tout à fait juste. Il change de palette.
Oui.
Quelquefois, hein, quand on parcourt l'album, effectivement, il y a ces hachurés. Et puis, hachurés, c'est dans les moments un petit peu.
C'est à la fois la perspective et en même temps la vitesse. C'est-à-dire que tu parcours un espace, il utilise beaucoup en fait le hachuré pour le sens des mouvements, effectivement, et pour faire part.
Mais aussi le stress.
Oui.
Enfin, c'est un peu tendu.
Oui, parce qu'en
fait... C'est quand il court, souvent, pour échapper
à... Oui, il y a vraiment, effectivement, une tension qui est extrêmement forte, qui est complètement figurée par, je dirais, les personnages principaux qui sont obligés de fuir l'armée secrète qui les poursuit. Mm-hmm. Tu as aussi des poursuites, en fait, en moto qui sont absolument magnifiques. C'est vraiment, moi, la moto de Canada, la moto rouge, c'est vraiment, je trouve...
Qui a été exposée, je crois, en modèle aux dimensions correctes l'année dernière, en 2016.
Ah, d'accord. Alors, ça donne envie de la piquer, mais enfin, quoique, peut-être que ça ne marche pas. Hein. On peut toujours essayer de mettre le contact et on ne part pas. Mais en tous les cas,
moi...
et donc, cette moto, elle est, c'est vraiment, dans l'histoire du manga et dans l'histoire du dessin animé, c'est vraiment quelque chose de totalement iconique. Enfin, je veux dire...
Oui, c'est comme la Batmobile, quoi.
Oui, oui, tout à fait. C'est l'équivalent de la Batmobile, hein, je veux dire. Et c'est prodigieux. Et le dessin animé a même ajouté des éléments qu'on ne trouve pas dans le manga.
Des éléments graphiques de tronc, par exemple.
Oui, tout à fait. Ou encore, par exemple... une énorme pilule en fait sous forme de gélule dans le dos du blouson de Canada. Et ça, c'est très impressionnant parce qu'il y a des plongées sur lui qui traversent par exemple une salle de jeu et qui arrivent à sa moto. Et c'est magnifique. Oui, c'est vraiment absolument magnifique. Les batailles à moto ont très bien été retranscrites. Et en même temps, c'est un côté qui est assez étonnant parce qu'on y trouve un aspect, entre guillemets, voyou, mais en même temps, joute de tournoi, puisqu'ils ont souvent des bâtons à la main avec lesquels ils vont renverser leur adversaire.
Le Julia Urbain.
Oui, exactement. Oui, tout à fait.
Ce qui est intéressant à évoquer aussi, c'est que Akira continue de susciter, disons, une communauté de fans très, très active et que beaucoup de projets d'adaptations cinématographiques modernes se sont succédés, avec plus ou moins de succès, notamment par le Werner.
Oui. Par quel réalisateur ?
Tout et rien.
Ah oui.
C'est vraiment...
D'accord.
Mais le dernier projet en date plutôt solide qui devrait être annoncé en 2017, croisons les doigts, et sera supervisé par Christopher Nolan.
Nolan. Oui. Oui, ça
et
peut...
ça tient la route.
Ah oui, oui.
Un c'est grand vrai fan, ils exigeaient une présence justement de l'auteur sur place pour superviser le scénario, etc.
Ah oui, d'accord, très bien.
Sait-on jamais.
Sait-on jamais, effectivement, ça pourrait être...
Donc ce serait une trilogie, et Dieu sait s'il y a matière à faire une longue série.
Oui, et peut-être que justement la trilogie sera supportable.
Espérons-le.
Oui, voilà.
Ah, en tout cas, ça s'annonce bien. Hein.
Oui. Ah mais Akira, il faut absolument
Akira,
le lire, hein. C'est
Akira,
incontournable.
Akira. Ah ouais, d'accord.
Oui, pardon, tu as tenté
je chantais,
un jeu de mots.
Ah
oui,
oui,
oui.
Mm-hmm.
Non.
Ah, ça ira, ça ira.
Oui.
Et oui, ça ira.
Oui.
On va écouter un petit peu de musique.
C'est
très
parti.
Bien, bonne idée.
Ça, c'était la musique.
Oui, c'était la musique du film. C'est le thème de Canada, voilà. Justement, absolument magnifique. Oui, oui.
Gilet urbain encore.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Allez sur YouTube et offrez-vous ce petit plaisir vraiment. D'avoir les images et la musique réunies. Vous avez même une version longue avec un bruit de pluie.
C'est justement celle que j'ai écoutée
oui.
hier.
Ah oui, oui, oui. Cette version-là est encore plus, plus agréable pour continuer le plaisir, pour le prolonger jusqu'à, je crois, 6 minutes, quelque chose comme ça.
6 minutes et 51 secondes.
D'accord.
Exactement.
Bien. Oui. Très bien. Donc maintenant, on passe sur Dreamland. On va...
C'est parti.
Là, on est vraiment dans le manga, dans le manga japonais. On est vraiment dans le manga français.
C'est le manga français en mode japonaise. Hein,
c'est ça.
Il se lit à l'envers.
Oui, donc, tout à fait. Donc nous sommes dans un petit format. Mais que s'est-il passé entre Akira et Dreamland? En fait, un développement du marché du manga, c'est ça?
Entre autres, oui. Les éditeurs se prêtent au jeu. Ils ont réalisé que c'était nettement moins cher, finalement, de conserver l'ordre de parution originale, donc de droite à gauche, que de faire une transition sur un axe qui était bien souvent au mieux aléatoire, au pire vraiment désastreuse en termes de visibilité des cases.
Il y a un exemple, donc, c'est pas Gen d'Hiroshima, en fait, la
entre
publication,
autres, qui est un manga excellent. Base, qui traite une fois encore des mêmes thématiques sur le traumatisme de la guerre au Japon, mais qui a été, disons-le purement et simplement, sous-estimé ou bâclé dans sa publication, ce qui lui a vraiment porté préjudice. Mauvais papier, je pense à l'époque à le magazine Le Cri qui tue, par exemple, qui diffusait les premiers mangas en France.
Le Docteur Justice.
Oh mon Dieu.
Ah oui, c'était Cliff Gadget, ça.
Docteur Justice. Enfin, c'est... Donc Le Cri qui tue. Je ne connaissais pas ce magazine.
En 78, c'est... je pense.
78, oui.
J'étais trop jeune.
Oui, j'étais trop jeune, oui.
Donc Dreamland, donc un manga à la japonaise, mais bel et bien fait en France, donc par Renaud Lemaire, aux éditions Pika.
Donc je crois qu'il est scénariste et dessinateur.
C'est ça.
Oui, c'est lui qui fait tout.
Et il le fait remarquablement bien.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est...
Mais moi, ce qui m'interpelle, quand j'ai lu ces mangas français... Et pourquoi est-ce qu'un graphiste va se tourner plutôt vers ça, alors que sa culture propre, c'est plutôt aller vers l'école belge, par exemple. J'exagère peut-être un peu, mais ou alors regarder du côté des comics américains. Ça a été fait. Il y en a beaucoup qui ont été adaptés au style français, quoi.
Et peut-être parce qu'il aime tout simplement. En fait, le manga. Oui.
Ma culture propre, c'est avant tout celle que l'on expérimente, pas celle que l'on reçoit.
Yes. Ok.
Alors, donc Dreamland, donc c'est un manga shonen, donc plutôt pour les jeunes, français, donc par Renaud Lemaire. Donc c'est l'histoire d'un groupe de jeunes. On va commencer par le premier.
C'est.
On y va encore, mais c'est un peu moins trash. Donc, c'est l'histoire de Terence Mayer, qui est en terminale STG dans un lycée à Montpellier, qui, bien qu'étant d'une extrême maladresse, étant remarquablement bienveillant, on va dire, avec ses amis, qui a la phobie du feu depuis que ses parents donc, sont morts dans un incendie dans sa jeunesse. Et pendant qu'il faisait un cauchemar, il va... on va dire qu'il va surmonter sa peur, et du coup, il va se réveiller donc, dans son rêve, dans un monde onirique ou une dimension parallèle. Où tous les dormeurs, tous les rêveurs s'y retrouvent, et ceux qui réussissent à surpasser, on va dire, leur phobie, font l'acquisition d'un pouvoir lié à cette dite phobie, et sont conscients dans leurs rêves, et donc peuvent voyager librement.
Oui, d'ailleurs, on les découvre les uns les autres au fur et à mesure de la lecture du manga, et on a les petites fiches descriptives qui sont d'ailleurs très drôles.
C'est ça, toujours
parce
bien
qu'on écrit. A droit à des détails, et d'ailleurs, Terence est surnommé Moumou.
C'est ça.
Parce que vraiment, ce qui est très drôle, c'est, je dirais, le rythme qui est non seulement dans le graphisme, dans le scénario, mais qui est aussi lié à une alternance entre, d'un côté, le côté débonnaire et les aventures de l'adolescence, hein, propre à l'adolescence, et traité d'ailleurs assez finement, hein, voilà, avec toutes les contraintes.
Avec justesse et réalisme,
voilà.
Ce qui est assez rare, finalement.
Oui, avec, effectivement, donc les problèmes de relation à la scolarité, et de l'autre, ce monde imaginaire dans lequel ils ne sont pas d'un seul coup des super-héros comme dans certains romans pour adolescents qui sont là pour vendre, c'est-à-dire pour brosser fantasy. Les adolescents dans le sens du poil. Non, là c'est vraiment en fait justement une alternance qui dans l'un et dans l'autre cas est traitée avec intelligence, qu'il soit dans Dreamland ou qu'il soit dans le monde réel. En fait c'est à chaque fois ils ont des réflexions liées à des questions qui se posent et à la façon dont le monde imaginaire arrive à les influencer, à leur faire découvrir en fait leur vie sous un autre angle et donc construire une identité, les aide à faire des choix notamment dans la vie et à créer des circonstances, des concours de circonstances dans lesquels ils vont pouvoir prendre des décisions et finalement petit à petit, tout en restant des adolescents voire des enfants, devenir un peu plus adultes.
Une vraie histoire d'initiation.
Oui, voilà, exactement. C'était le mot que je cherchais.
Voilà, c'est une démarche initiatique.
Oui, tout à fait. Oui, c'est très charmant, c'est très charmant.
Dreamland, c'est un perpétuel hommage graphique et culturel au monde des imaginaires d'Orient en Occident.
Ah oui ?
Plein de références partout, dans le monde des rêves. Le premier personnage qui croise, c'est tout simplement Carl Gustav Jung. Donc le disciple de Freud qui s'est coincé à Dreamland depuis qu'il a fait une expérience avec de l'opium.
Ah d'accord, oui, c'est pas mal ça.
Ça s'appelle les paradis perdus.
Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc Dreamland.
On sent vraiment un hommage notamment à One Piece de Eiichiro Oda pour les mangas.
Par contre, je dois avouer que je n'ai pas lu One Piece.
Donc il y a vraiment un personnage qui ressemble beaucoup, c'est donc Savan, un personnage de son équipe, un pugiliste invétéré au grand cœur, qui ressemble beaucoup au personnage de Roronoa Azo.
D'accord, très bien, oui, lui aussi a sa petite fiche descriptive.
Qui avait hélas la phobie des poissons, qui se retrouve contraint à invoquer des poissons pour se bagarrer.
Oui.
Ce qui a ses limites, mais qui se révèle assez intéressant au final.
Oui, surtout des gros poissons qui mangent effectivement ses adversaires. Il a une petite sœur aussi, je crois.
C'est ça.
Oui, avec sa petite peluche.
Et il rencontre Terence justement dans le monde réel en essayant de récupérer son doudou. Et
oui, d'accord.
Parce que le doudou est dans le monde réel.
Oui.
C'est important. Oui. Parce que dans le pays des rêves, on n'a pas besoin de doudou.
Ils iront le chercher dans le monde imaginaire aussi. Voilà.
Ah oui. Voilà. Oui. Donc Dreamland, moi je conseille, j'ai trouvé ça très agréable, très étonnant,
très
drôle.
Très dynamique dans l'humour.
Oui, tout à fait.
Et plein d'hommages à la culture populaire, quelle qu'elle soit.
Et graphiquement, très chouette.
Ah oui, moi j'aime beaucoup en fait ces cases qui sont légèrement en diagonale en fait, avec notamment des cases à fond perdu, c'est-à-dire ne sont pas fermées. Et sont près du bord de la page.
Ce qui traduit un peu le pays des rêves.
Oui, tout à fait. Il y a un jeu sur la mise en page qui est tout à fait intéressant, qui traduit le fait d'être dedans et en dehors. Osons le mot, allez hop. Quel sens de l'analyse.
C'est pas mal.
Oui. Très bien.
On garde.
Oui, on garde.
On garde. Ouais.
Et c'est bien, c'est vite lu en plus.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il faut prendre son temps, ça ne défile pas aussi.
On peut le lire deux fois.
Oui. Non, il faut prendre son temps, il ne faut pas... Plus... Ouais.
Oui, mais nous sommes des dévoreurs.
Oui.
Mais de temps en temps, on reprend un bouquin pour le relire.
Oui.
Il faut.
Bon, on va peut-être écouter un peu de musique.
Dreamland, donc. J'ai tous les libraires dignes de ce nom.
Vous avez reconnu le petit sorcier qui est passé sur son balai. Là.
Oui, voilà, ça ne rajeunit pas train, non plus. Oui.
Mmh. Ouh, c'est pas si vieux que ça. Si, quand même. Mais c'était Harry Potter.
Ça finit par devenir vieux.
Oui, tout change.
Oui.
Bon, on change de sujet. On va parler d'une charmante petite sorcière. C'est pour ça qu'on a mis cette musique.
Alors, un autre manga français aussi, aux éditions Bambou, Isaline Thomin, Sorcellerie culinaire. Mmh. Paru le 11 mars 2015. Avec Max Lemas... Oula.
Max Hermanier
au scénario et dessinateur par Elia. Et dessiné par Elia. Donc Isaline, c'est assez particulier en cela que c'est un format double qui a été édité par Bambou, donc à la fois sur un format de bande dessinée occidentale classique et comme un manga. Donc ça illustre aussi la bonne volonté des éditeurs de faire ce genre de publication.
Ah, je ne savais pas. C'est l'une des premières fois que...
Ça s'est fait. Ça s'est fait notamment pour Appa, dont nous parlerons tout à l'heure.
Oui, d'accord.
C'est surtout Bambou qui fait ça.
Oui.
Donc c'est un manga français très inspiré des travaux du studio Ghibli, notamment de l'œuvre de Hayao Miyazaki, tant pour le graphisme que le concept.
Avec les petits animaux.
C'est ça.
Oui, qui accompagnent toujours. Notamment
un chat paillette qui, une fois qu'il est mouillé, devient un gros mutant.
Oui, c'est vrai.
Divertissement garanti.
Oui.
Et c'est une petite sorcière qui a...
C'est ça.
Plein de problèmes.
C'est ça,
elle a une grand-mère qui lui fout des bâtons dans les roues tout le temps parce qu'elle est amoureuse d'un copain au collège.
C'est ça. C'est une jeune fille qui manque un peu d'assurance, mais qui aide donc le soir au restaurant familial, qui est amoureuse donc de Thomas.
Elle a une grosse concurrente. Enfin, c'est grosse.
Une blonde.
Une blonde.
Oui.
Et donc elle veut s'en débarrasser.
C'est ça. Mais Thomas l'invite, elle, à son anniversaire. Et donc, de dépit, et plus ou moins paniquée, elle demande conseil à sa grand-mère, qui lui révèle donc son héritage familial, qu'est la sorcellerie. Et ce faisant, donc, elle lui offre son vieux grimoire de recettes, elle l'introduit, on va dire, au monde des sorciers.
Mais ça lui réussit pas vraiment. Hein.
Certainement.
Parce qu'elle a plein de problèmes à cause de ça. Mmh.
Disons qu'elle fait un gâteau, se rate un peu. Et...
Voilà.
Si vous avez vu du Ridley Scott, vous voyez à peu près ce qui s'est passé.
Ah. Alors. Oh.
Mais sans éviscération.
Ah oui, d'accord. Mmh. D'accord.
Notez, c'est pas faute d'essayer.
Oui.
Et en fait, à la fin, elle se réconcilie avec cette fameuse.
Exactement. Disons que suite aux menus péripéties qui seront laissées à la discrétion aussi.
Oui, bah, il ne faut pas tout raconter.
Effectivement.
On ne pourra pas le lire. Oui.
Donc ça renforce les liens donc, entre Isaline, Thomas et sa rivale qui deviennent un trio dynamique, on va dire.
Voilà.
Une fois encore, les traumatismes sont partagés.
Non, quand même.
Pardon, tu disais, Thomas ?
J'ai dit un ménage à trois.
Oui.
Oui, enfin, elle a 12
non,
ans.
Presque.
Oui, bah. L'autre est plus grande. Enfin, bon.
Elle a 12 ans.
Oui.
Elle a 12 ans, Jean-Marc.
C'est absolument embarrassant.
Je m'excuse de mes propos.
Non, c'est rien. Voilà,
c'est un charmant petit bouquin. C'est rigolo comme tout.
Assurément. Bien écrit.
Oui, moi, j'adore, effectivement,
très dynamique,
le petit chat.
Encore dans le cadre. C'est un bon moyen d'introduire ce manga, je pense, pour les jeunes filles.
Mm-hmm. Oui.
Oui, mais c'est... moi, je dirais que c'est tout public, mais c'est vrai que c'est plutôt pour les ados.
Mm. Oui.
Je trouve ça assez sympa.
Adolescent, préadolescent.
J'adore le personnage de la grand-mère. Moi.
Okay. Oui, elle a une tête. Elle rappelle aussi justement les personnages de Hayao Miyazaki, justement ces fameuses sorcières qui ont un très gros nez, en fait, qui ont des proportions assez étonnantes et qui sont un peu à l'image de ces sorcières au sens, j'allais dire. Qui sont situés en fait entre le bien et le mal, c'est-à-dire que c'est pas la bonne marraine au sens de Disney, c'est vraiment la sorcière qui
le surhomme de Nietzsche.
Oui. Qui est la gardienne du monde,
mal,
oui,
c'est ça.
Qui est la gardienne en fait du monde de l'imaginaire,
c'est ça,
qui met à l'épreuve en fait,
à grand renfort de boule de feu,
c'est le côté magie noire.
Boule de feu, c'est important,
parce que la sorcière est pas foncièrement La sorcière n'est pas foncièrement mauvaise.
Oui.
Après, c'est ce qu'on en a fait. C'est la chasse aux sorcières.
Elle a cette fonction d'initiation à la vie, à travers aussi les épreuves qui permettent à ceux qui les traversent de devenir plus forts.
Exactement.
Comme le mentor
Baba Yaga, la fameuse sorcière russe, ce genre de choses. Donc oui, moi, elle me rappelle effectivement beaucoup les personnages de Miyazaki. Oui, les sorcières de Miyazaki avec leur gros nez, comme dans Le Voyage de Chihiro.
Les édentés avec un sourire.
Oui, oui, tout à fait.
C'est genre pour nous sortir du coup.
Oui.
Oui, bah, c'est un petit bouquin très
oui,
sympathique.
Très bien. Oui, oui, oui. Il est très
et
bien.
Et puis en plus, c'est tout rose, c'est joli.
Oui, c'est très bien dessiné, très précis en fait. C'est très,
très,
très
clair
précis,
comme
oui.
dessin. Mm-hmm,
exactement.
Très vivant, très
oui.
agréable.
Oui, oui.
Puis il y a des chapitres.
Mm-hmm. C'est toujours utile.
Ouais, et, bah, oui, non, mais c'est intéressant. Et puis il y a la présentation des personnages qui est un peu récurrent dans le manga.
Oui.
Donc il y a des fiches signalétiques.
Note de bas de page, en fin de tome, pour étoffer un peu l'univers. Mm.
Non, très sympa.
Très
on
sympa.
Garde.
Oui.
On garde.
Alors Jean-Marc, c'était pas la musique d'un de tes films préférés ?
Ouais, Conan le Barbare.
Tuer ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes.
Oh. Oui, voilà. Que de virilité. Et encore, on n'en voit que la surface.
Oui, mais c'est bon. Ça ne passe pas au centre-ville.
Bon,
ça
voilà.
Certainement que les survêtements en moi.
Arnold Schwarzenegger, si tu nous écoutes,
voilà,
bonjour.
Exactement. Hello. Voilà.
Donc là, il ou non, commence à animer ses propres stages de formation aux arts martiaux historiques européens, notamment avec des épées. Donc
d'accord.
L'épée longue.
Ah, mais je savais pas. Voilà.
Californie. Rien que de lire
non,
ça.
Mais déjà, il a tout fait, ce garçon. Il a
Vous
été
avez
gouverneur.
Envie d'y aller.
Oui.
Oui.
Il a été gouverneur de Californie.
Oui.
Maintenant,
oui.
Il fait. Mm-hmm. D'accord.
Oui, il ne s'est pas fait remarquer par
finalement,
une remarquable gestion, d'ailleurs.
Il ne fallait pas le confondre avec Jean-Claude Van Damme.
Non,
j'ai la plus intelligent.
Il ne faut pas être cruel avec Jean-Claude.
Les coups de pied sautés, c'est bien.
Ah oui.
Une once de charisme, c'est toujours utile.
Oui.
Oh, c'est bien.
Très utile.
Alors maintenant, on va à la chasse, puisque le prochain album s'appelle L'Appât.
Ouf.
J'ai fait fort.
C'est un indie, effectivement.
Oui.
Mm-hmm. Voilà.
Oui.
Que
oui.
Et c'est un animal qui fait un petit peu penser au Yeti, enfin dans l'imaginaire. Sauf que c'est un Yeti avec des ailes.
Velu. Ouais.
Oui, mais il a tout
une
pour
variante.
Lui.
Velu, mais blanc.
Il a tout pour lui.
Avec quatre cornes. Et ma foi, une certaine aptitude pugilat également.
Oui, il a un bon coup de poing, parce que sur la couverture, il éclate un dragon. Là.
Marouflage de margoulette d'élite.
Ah oui, je vois, il casse des dents.
Oui.
Des grosses dents. De gros vers.
Ah, il pourra faire un collier comme Rahan. Avec...
Oui. Oui. Oui, 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 sans doute.
Donc, Appât. Sur le même modèle que Bambou, donc qui est publié à la fois sur un format occidental classique d'album, et donc en manga, publié au 11 mars 2015 par Thomas Bonis et au dessin de Dave.
Dans le sens français, celui-là.
C'est ça. Donc c'est un peu un Calvin and Hobbes à la française, pour ceux qui connaissent les histoires de Calvin et de son tigre en peluche. L'histoire donc d'un village de pêcheurs, avec une jeune fille qui, tant bon an mal an, ne rêve que d'une chose, c'est de partir, et qui accidentellement sauve la vie donc à un dragon qui s'était coincé dans un filet. Donc les deux communiquent, deviennent amis, et ont une seule envie également, c'est de s'enfuir. Ce qu'ils font, mais au prix de menus péripéties. Un graphisme assez dynamique aussi, très bon enfant, c'est simple, mais il y a
c'est très agréable.
L'humour un peu potache et des références un peu à la Lanfeust, par exemple, ce qui est assez plaisant.
Oui, justement, j'y ai pensé, effectivement, en ce qui
concerne... Lanfeust
oui,
Lanfeust de Troyes.
Oui, 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 exactement, oui. Bah, en fait, on...
Un troll qui vole.
Oui. D'ailleurs, effectivement, il y a d'autres mangas. Enfin, oui, Lanfeust a vraiment créé un style d'heroic fantasy légèrement parodique. Et donc, oui, c'est assez marqué par ça, effectivement. Oui, 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 tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé du graphisme ? C'est plutôt pas mal. Moi, j'ai... Bon.
C'est assez clair.
Fluide et dynamique, très détaillé.
Oui. Oui, effectivement, très très détaillé. Je dirais même par moments peut-être un peu trop. Par exemple, bon, il y a des touffes d'herbe dont on se passerait, si je puis dire. C'est-à-dire que je trouve que ça nuit un peu à la lisibilité. Mais bon, ça c'est mon point de vue personnel. Après, voilà, ça reste toujours très bien fait par rapport au sens des mouvements, à l'expressivité, au sens des proportions. Même quand on a affaire à des personnages qui sont disproportionnés, il faut avoir le sens des proportions des disproportions. Et donc, stylistiquement, c'est pas mal. Il y a un parti pris, en fait, qui est un peu détaché par rapport au manga. Il y a certes, effectivement, les grands yeux. Il y a aussi le côté exacerbé des expressions. Le côté castagne et action qui, effectivement, est ultra... Oui, avec, évidemment... et ça, c'est toujours très intéressant. Enfin, on peut considérer... comment dire, que c'est un peu rébarbatif parce que ça revient régulièrement. Mais les combats ont toujours un sens particulier, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses, en fait, au cours des combats. C'est pas uniquement on se tape sur la gueule, c'est pas de la violence.
Mais c'est ritualisé un petit
oui,
peu.
Oui, tout à fait, exactement. Donc c'est vraiment une culture du combat, qu'on c'est pourrait ça. Dire d'origine réellement asiatique, pour le coup.
Des duels.
Et donc, oui, parler. Voilà. Oui, la culture des duels, la culture du combat tout autant psychologique, en fait, que
et
physique.
Et en fait, aussi une sorte de droiture. Oui. Dans le combat.
Disons d'éthique.
D'éthique, voilà.
Oui. Donc oui, il est
assez... Marouflage, oui, mais avec élégance.
Oui, exactement. Donc oui, il est très bien. Oui, il est très surprenant, effectivement. Il est à la fois dans la tradition du manga et en même temps assez, je trouve... assez occidental par d'autres côtés. Moi, je me pose la question, en fait, quand je le regarde, j'aurais aimé savoir, par exemple, s'il avait été en couleur, quel choix aurait été
Alors, l'album, sous son édition d'album occidental, c'est en couleur.
Ah, tout d'accord.
Là, oui. Moi, la couleur ne me manque pas du tout, là.
Non plus, ça ne m'a pas particulièrement choqué.
Ben,
moi, je craindrais l'apport de la couleur, enfin, je ne sais pas.
Je serais curieuse de voir la couleur.
Je vous l'apporterai la prochaine fois.
Alors, donc bon, l'appât, bah, oui.
L'appât, oui. On est allé à la chasse, on va le garder.
Oui, hein. Oui, oui, tout à fait.
Voilà. Comme ça, on attrapera peut-être autre chose. Ah, oui. Notre prochain bouquin. D'accord.
Oui, exactement.
On va écouter un peu de musique.
Oui.
Vous avez tous reconnu forcément ce fameux groupe un peu méconnu, oui c'est dommage, House of Love, qui nous chantait Shine On.
Bien.
Bon, un tout petit peu, hein. Ça n'a pas duré très longtemps. Alors maintenant on va faire, comme on a pris l'habitude de le faire depuis la dernière fois.
Un tour de table.
Un tour de table.
C'est bien ce que je viens de dire, bon, oui. Un groupe. Et donc, honneur aux dames.
Oh. C'est...
Anne va nous présenter ce qu'elle astuce. Nous propose comme lecture.
Galanterie n'est pas procrastination.
Donc je vous propose à la lecture de Michael Almodovar, donc Les Torches d'Archilon, qui est donc un manga que j'ai sous les yeux, donc dans le sens de lecture occidentale, que je trouve donc aux éditions Akata. Voilà, j'ai le tome 1 entre les mains. Voilà.
Et Ataka donc... ouais,
Non, Akata. Et non, Ataka.
Non, mais c'était joli, Ataka.
Oui, 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 eh bien, c'était joli.
On a été Akata, là aussi.
Donc, oui, fantaisie, humour, aventure, c'est exactement ça. En fait, c'est... alors, comment dire... c'est l'histoire de deux compagnons qui sont à la recherche d'un paladin qui est une clé pour mettre la main sur une arme qui s'appelle les torches d'Archilon. Et donc, ça se passe dans un univers d'heroic fantasy.
Très proche de l'enfeuse dans l'esprit.
Oui, voilà, très proche de l'enfeuse
dans
l'esprit.
Ça va dans les tavernes, ça donne des coups. Exactement. Ça assomme quelqu'un avec un tonneau,
oui,
ça lance des haches
oui,
de jet.
Oui, tout à fait. Exactement, c'est exactement ça. Et il y a une superbe sorcière, en fait, qui chevauche un merle. Donc, c'est très joli à voir parce que ça nous change de la sempiternelle chauve-souris. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc, ou du dragon. Donc, il y a un choix graphique et audacieux, effectivement, par rapport justement au style de chacun des personnages qui sont chacun très, très, très bien identifiés. Et en fait, ce sont deux histoires qui se côtoient parce que donc, vous avez d'un côté un petit garçon qui est plongé dans le coma. Donc, ça se passe cette fois-ci. Donc dans la réalité quotidienne, un petit garçon est plongé dans le coma à l'hôpital et en fait sa mère lui raconte justement un manga qu'il aime particulièrement. Il se trouve que ce sont les torches d'Archilon. Alors c'est assez amusant parce que l'auteur en profite pour s'envoyer des fleurs, oui. Mais en même temps, voilà.
Ça n'existe pas la mauvaise publicité.
Ça n'existe pas la mauvaise publicité, comme dit Maxime.
Il s'est fait à dégoût, donc c'est pas particulièrement dérangeant.
Voilà, et il se trouve que comme l'album est vraiment très bien et que la mise en page est aussi assez remarquable, ça n'est pas dérangeant qu'il y ait ce petit moment de publicité personnelle. Donc effectivement, cette femme lit l'ouvrage préféré de son fils à son fils qui est dans le coma. Et évidemment, à chaque fois, on replonge dans l'univers des Heroic Fantasy, donc ça alterne. Voilà. Donc je le conseille parce que c'est assez drôle, c'est de l'aventure, c'est assez émouvant de par la situation du petit garçon à l'hôpital. Et c'est remarquablement dessiné. La mise en page est plus proche du comics que du manga, je trouve, avec
c'est
superposition
ça.
De.
C'est très dynamique.
Oui.
Voit.
Exactement.
On a un coup de poing, on envoie le bonhomme dans la case d'après.
Et dans la physionomie des personnages, il n'y a pas les gros yeux, etc. C'est quand même plus fin.
C'est plus fin, mais il y a quand même des grands yeux. Je dirais pas les gros yeux, mais il y a des grands yeux.
C'est indéniable.
Oui, 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 il y a une influence indéniable. Il y a effectivement tout le côté aussi un peu Dragon Ball, les expressions, les... Oui, tout à fait. La galerie des expressions très exacerbées, oui, qui déforment les visages.
Ça m'a un petit peu rappelé, mais je ne sais pas si ça vous parlera directement. Les New Gods, donc les nouveaux dieux,
oui.
De Jack Kirby.
Oui, c'est vrai.
Ah, je ne connais pas. Donc je...
Voilà.
Alors, et toi, Jean-Marc, quel album Ah non, on m'a confié celui-là.
Non, c'est pas grave. Non, j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Emma et Capucine. C'est par Jérôme Hamon et Léna Seyafoum.
Voilà, oui, ça Léna étant au dessin. Puisque c'est toujours le scénariste que l'on nomme en premier.
Et donc c'est moi qui l'ai choisi,
oui.
Qui l'ai proposé à Anne, qui a accepté,
oui.
Parce que c'est toujours elle qui conclut. Quoi. Et moi ce qui m'a plu c'est le graphisme que j'ai trouvé très proche du graphisme japonais, alors que c'est pas du tout un manga. C'est une très belle histoire, ça me rappelle un petit peu le petit rat de l'opéra à la télévision, je sais pas si vous êtes trop jeune, oh là là.
Non.
En noir et blanc. S'il vous plaît. Là, par contre, il y a plein de couleurs, c'est très beau. Et donc, c'est l'histoire de deux sœurs qui prennent des cours de danse.
De danse classique.
Il y en a une qui va réussir et pas l'autre.
Oui, oui, c'est le concours d'entrée à l'école,
voilà.
À l'école du conservatoire, pour devenir danseuse étoile un jour.
Et je vais me dépêcher parce que je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est très très beau, les couleurs sont magnifiques, bien que ce soit fait sur ordinateur.
Oui.
Ça c'est indéniable, mais très très bien fait.
Et oui, il y a un parti pris récurrent avec un effet de lumière qui crée une aura autour des personnages.
Voilà, donc je vous le conseille vivement. Donc ça s'appelle Emma et Capucine. Et c'est le premier tome. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'était très bien. Oui. Je passe la... Le micro à Maxime.
Pour ma part, et pour ce qui est de l'héroïque fantasy à la française, avec une influence manga, je ne présenterai plus Les Légendaires de Patrick Sobral aux éditions Delcourt. Donc Les Légendaires, c'est dans un univers d'héroïque fantasy classique, donc un groupe d'aventuriers appelé Les Légendaires, qui, suite à un combat avec un sorcier maléfique, donc Dark Hell, déclenche une malédiction sur le monde entier où tout le monde se voit réduit à son aspect d'enfant. Donc c'est de l'héroïque fantasy par des enfants, mais qui est remarquablement bien écrit. Il y a une réelle montée en puissance du scénario au fil des tomes, et c'est quelque chose qui est vraiment représente l'héroïque fantasy de production française maintenant.
Voilà, bah c'est fin de ce petit tour de table. On a juste le temps de remercier tous les gens qui nous ont aidés à préparer cette émission. donc Maxime de la librairie Mangaya,
pour vous servir,
qu'il ne faut pas oublier. Hein. Et puis c'est, en plus, c'est tout jeune, donc il faut y aller. Mon Barbon.
Oui.
Qu'on cite toujours, qui est toujours notre partenaire. Et puis, le...
J'attends. Allez, vas-y, non, Jean-Marc.
Je vais encore dire une bêtise.
Non, mais j'espère que ce ne sera pas la même bêtise que d'habitude. Non.
Notez, c'est toujours surprenant.
C'est l'ensemble des médiathèques de la ville de Bourg-en-Bresse.
Le réseau de lecture publique.
Le réseau de lecture publique.
Voilà.
Donc, les médiathèques de la ville de Bourg.
Voilà.
Oui.
Et vous les connaissez tous, il y en a une à votre coin de rue.
Oui, à tous les coins de rue, il y en a à tous les coins de rue, il y en a trois. Oui, dans le quartier de la Ressouze, près de Carrefour, et la troisième, donc en centre-ville, à côté de l'office de tourisme.
Et c'est conseillé.
C'est conseillé, oui.
Vous pouvez aller lire des livres.
De très belles collections de bandes dessinées, qui complètent effectivement le travail de sélection des libraires.
On parle beaucoup de bandes dessinées, mais il y a énormément de choses à la médiathèque. Quelquefois, on peut même se surprendre à lire un vrai livre.
Oui. Trop dingue, trop fou.
Et puis je tiens à remercier de toutes mes forces Pauline.
Oui, Pauline.
Elle est fantastique, Pauline.
Oui,
Pauline, légendaire.
Allez, à bientôt.
Bien le bonsoir.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Oui,
des...
Clip, crop,
des...
Bang,
des...
Blanc,
et des...
Zichba, pas, blanc.